Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes fin prêt pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci de nous avoir choisi pour relancer la machine.
Nous sommes le lundi 14 mars et il nous a quittés il y a 13 ans.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine.
Alain Bachung disparu le 14 mars 2009, l'un de ses chefs-d'œuvre, La nuit, je mens, qui évoque les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce 14 mars 2022, Julien, c'est l'Ukraine qui résiste.
Qui résiste bien, même si très clairement ces derniers jours, les forces russes sont montées d'un cran dans la violence. Civils et journalistes pris pour cible, maternités et hôpitaux bombardés. Moscou s'impatiente et utilise ses missiles pour faire passer des messages, comme cette base militaire visée dans l'ouest de l'Ukraine, base située à 20 km seulement de la frontière polonaise et qui accueillait une partie des armes envoyées par les Occidentaux.
Peut aller Poutine pour abréger au plus vite ce conflit. L'option armes chimiques est-elle sur la table comme le redoutent les Américains? On en parle à 6h10 avec votre invité Julien.
Le politologue et chercheur en relations internationales Benjamin Haddad. On va bien sûr parler également dans vos journaux de la fin du pass vaccinal et du port du masque obligatoire masque obligatoire en intérieur aujourd'hui.
Oui, nouvel allègement du protocole sanitaire et on va s'intéresser particulièrement aux écoles, aux collèges, aux lycées. Ce matin, seuls les élèves et les professeurs qui le souhaitent pourront garder leur masque en classe.
L'occasion de revenir avec votre invité Omblin sur les deux années chaotiques qu'ont vécu nos enfants.
Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute, le masque, les règles sanitaires qui changeaient, les cours à distance, est-ce que ça a laissé des traces? Rendez-vous à 6h moins le quart.
Et votre partition pour conclure.
Avec un génie de la musique américaine qui sait tout faire. Trompettiste de jazz, compositeur, producteur, chef d'orchestre, la partition de Quincy Jones à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez les bienvenus sur Europe 1. On commence comme chaque matin avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon, nous avons vécu un week-end assez pluvieux, pour ne pas dire autre chose. Mmh. Et comment se présente ce début de semaine?
Alors, vu que c'est la période des conseils de classe, j'ai envie de vous dire, comme il y avait sur mes bulletins, bien mais pas top aujourd'hui. Ça va mieux que ce week-end, effectivement, parce qu'on a eu un épisode Cévenol, notamment dans le sud, assez violent, et puis de la pluie partout avec le passage de cette perturbation. Alors ça va un peu mieux, mais ce matin on a encore des averses résiduelles dans le sud, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Provence, la Côte d'Azur. Le ciel menace encore une bonne partie de la journée. Sur le Languedoc-Roussillon, on a des pluies, mais je vous rassure, bien moins fortes que ce week-end. Je vous rappelle quand même que le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance crue. On a encore des débordements par endroits. L'épisode de forte pluie, lui, est fini. En revanche, on part sur un nouvel épisode de fort vent cette fois-ci sur le Languedoc-Roussillon et l'Occitanie. Donc ça va du midi toulousain jusqu'au sud du Massif central où les rafales de vent pourront atteindre les 120 km/h. Cet après-midi, plus les heures passent, plus le soleil revient et ça ira de mieux en mieux comme ça de jour en jour. Les températures, on va gagner 2-3 degrés avec moins 1 à 10 degrés ce matin sur l'ensemble du pays.
Bien, mais pas top. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Voilà nos combattants morts que je n'ai pas réussi à sauver. Je ne sais pas si je sauve, j'aide.
Le témoignage poignant du dernier médecin encore présent à Irpin, près de Kiev, caché dans les vestiges de son hôpital. Il reste, malgré les risques, pour tenter de soigner les siens. Nous serons sur place dans un instant avec notre envoyé spécial. Enfin, pour certains, trop tôt pour d'autres. Et vous, qu'en pensez-vous? Fin du masque obligatoire aujourd'hui, sauf dans les transports et les établissements de santé. Dans les écoles, certains élèves vont découvrir ce matin pour la première fois le visage de leur prof. Reportage à suivre. Et puis à 27 jours du premier tour de la présidentielle, 8 des 12 candidats dont Emmanuel Macron participent ce soir à une grande soirée politique à la télévision. 15 minutes d'interview par candidat, mais pas de débat. Le président refuse. Scandaleux, estiment ses concurrents.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce lundi 14 mars vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Les roquettes russes risquent de tomber sur les pays de l'OTAN. Mise en garde cette nuit du président Volodymyr Zelensky qui réclame l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.
Un avertissement alors que les troupes russes ont frappé tout proche de la frontière polonaise hier.
Oui, à une vingtaine de kilomètres seulement. Même Kiev, la capitale, est en état de siège, estime un conseiller du président ukrainien. Dans ses faubourgs à Irpin, un journaliste américain est décédé, tué par balle hier. Sur place, il ne reste plus qu'un médecin terré en sous-sol dans les ruines de l'hôpital de la ville. Le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Tonev.
Une salve d'accueil à l'hôpital d'Irpine. Mais ce n'est rien à côté de celle du médecin.
Je suis le seul docteur qui reste.
Comment vous appelez-vous?
André. Oui.
Quelle est la situation sanitaire?
Une saloperie, beaucoup de cadavres. Tu veux voir des cadavres? Allez, on y va.
André contourne le bâtiment principal de l'hôpital, transpercé par les 20 jours de guerre. Entre débris de verre et de béton, quelques mètres à pied, rythmés par les grondements de l'artillerie.
Voilà nos combattants morts que je n'ai pas réussi à sauver.
Le drame s'est déroulé dans ce couloir en rouge.
Ici, j'ai sauvé. Ici, j'ai sauvé 6 personnes sur 8. J'ai échoué pour 2.
Il repose là, faute de morgue.
Des avions, c'est l'anti-aérien.
Comment vous tenez?
Comme ça, tu vois bien. Je tiens, je suis docteur.
Et vous sauvez des gens?
Je ne sais pas si je sauve, j'aide. Sauver, c'est beaucoup dire.
Incroyable Andrei. Il ne tourne jamais la tête d'inquiétude vers le ciel. Dans les ruines et le vacarme, il a assez parlé et s'en va. À Irpine, Nicolas Toneff, Europe 1.
Et de nouveau pour parler entre Kiev et Moscou sont prévus aujourd'hui en visioconférence. Alors que selon le New York Times, la Russie a demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour mener cette guerre.
En attendant, les civils fuient toujours l'Ukraine. D'après les Nations Unies, la guerre a déjà fait 2 700 000 réfugiés.
Dont 10 000 arrivés chez nous, en France, principalement des femmes et des enfants pour lesquels les établissements scolaires se mobilisent. Comme à l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur à Senlis, dans l'Oise. 7 enfants y ont fait leur entrée lundi dernier. Tout est pensé au mieux pour les accompagner. Arthur Pereira s'est rendu dans cette école.
Je m'appelle Camille.
J'ai 9 ans.
Parfait !
Assise sur un petit banc en bois, Camilla joue avec ses tresses brunes. Avec sa sœur, elles font partie des 7 enfants ukrainiens arrivés en France lundi dernier. Pour eux, pas de conjugaison ou de mathématiques. Aujourd'hui, ils apprennent les bases du français avec Anne-Laure, la bénévole.
Ils dessinent, ils jouent. On essaye de les faire parler, de leur apprendre des mots pour pouvoir au moins se présenter. Je m'appelle, j'habite, j'ai tel âge.
Juste à côté, Sviatoslav, 11 ans, s'amuse lors d'une partie de cartes avec d'autres enfants.
Je suis content de l'accueil qui m'est fait ici, en France. Et j'apprécie que ce groupe ait été créé pour nous, les enfants ukrainiens.
Pendant que deux petits Ukrainiens entament l'air de Titanic au piano et au violon, Katia, l'une des mamans, est ravie de voir à nouveau sa fille sourire.
Ici, tous les gens et les professeurs sont vraiment gentils avec nous. Et c'est important pour elle, psychologiquement, d'être avec d'autres enfants en sécurité.
2 heures chaque jour qui permettent aux enfants de s'évader et de retrouver un semblant de vie normale, même s'ils confient penser encore à leur père resté au front.
Arthur Pereira.
Dans les écoles justement, mais aussi dans votre boulangerie, votre supermarché ou votre restaurant préféré, une nouveauté et non des moindres ce matin, c'est la fin du masque obligatoire.
Enfin, disent certains, c'est trop tôt, estiment d'autres. Au moment où l'épidémie repart, le masque ne reste obligatoire que dans les établissements de santé. Les transports, dans les écoles, certains élèves vont découvrir pour la première fois le visage de leur enseignant, comme au collège La Perrière de Soussy-en-Jarret, près de Lyon. Reportage de notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
La fin du masque en cours, les élèves ont un peu de mal à y croire. C'est le cas de Kenora, élève de 6e, qui met un masque pour aller en classe depuis un an et demi, en fait depuis le début de son année de CM2. Du coup, la fin du masque, c'est pour elle
une libération. Ce sera mieux qu'avant, parce que les masques ont commencé à avoir mal aux oreilles, les migraines. C'était plus possible. On va pouvoir mieux respirer quand même sans le masque.
Un retour à une vie presque normale qui ne va pas aller sans quelques surprises, explique Candice et Mao.
Ça va faire bizarre parce qu'on va voir les têtes des autres.
Les profs surtout. Les voir sans masque, ça va faire bizarre.
Parce que les profs, vous connaissez pas leur visage?
Non, on les a jamais vus.
Quel prof par exemple?
Du coup, histoire géo, maths, après français, elle l'enlève, anglais aussi pour nous montrer comment on prononce. Après, il y a aussi la technologie, la musique, l'art plastique.
Vous connaissez pas le visage de ses profs?
Non, bah que le haut du coup, que les yeux, ça va faire bizarre.
Personne ne va donc le regretter ce masque, sauf pour une chose, explique Avril, 11 ans.
Ce qui est nul, c'est qu'on va plus pouvoir manger de chewing-gum pendant les cours.
C'est-à-dire?
Bah ça permet de manger du chewing-gum en cachette, puisque du coup on va voir quand on mâche.
Parce que le masque c'était bien pratique pour mâcher.
Oui, alors là, des fois les profs ils nous remarquaient, mais en soi pas beaucoup quoi.
Malgré tout, Avril, comme beaucoup de ses copines, va quand même glisser un masque dans sa poche ce matin, au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer, dit-elle. Soussy-en-Jarret, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et aujourd'hui c'est aussi la fin du pass vaccinal et du protocole sanitaire en entreprise.
État français assassin, voilà ce que l'on pouvait entendre en Corse hier dans une manifestation à Bastia.
Manifestation manifestation qui a viré à l'émeute dans l'après-midi, une dizaine de jours après l'agression d'Ivan Colonna, toujours dans le coma. Bilan, 67 blessés, dont 44 membres des forces de l'ordre. 7000 participants selon les autorités, 12000 estiment les organisateurs. L'hôtel des impôts a été incendié, rapporte le procureur de Bastia.
Nous sommes à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle.
Et la campagne bat son plein. Les 8 principaux candidats seront réunis ce soir sur TF1 pour une émission spéciale sur la guerre en Ukraine. Pas de débat, Emmanuel Macron le refuse, mais plutôt une succession d'interviews menées par les présentateurs, ce qui a le don, Alexandre Chauveau, d'énerver les prétendants à l'Élysée.
Oui, les autres candidats le lui reprochent, mais tous ont finalement accepté le concept de l'émission. Une présentation d'une minute, une interview d'un quart d'heure environ et une conclusion de deux minutes. Pas d'échange entre les candidats donc, au grand regret d'Otmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse.
On regrette, encore une fois, qu'Emmanuel Macron cherche à esquiver le débat d'abord sur son bilan. Et donc, nous ferons avec ce format, même si, encore une fois, nous continuons de penser qu'il faut des débats digne de ce nom pour que les Français soient éclairés.
Emmanuel Macron veut s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs. De Gaulle, Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, candidats à leur réélection, aucun n'a débattu au premier tour. Une position critiquée par ses adversaires, Julien Bayou notamment, président d'Europe Écologie Les Verts et soutien de Yannick Jadot.
Le président Macron se réfugie derrière les codes classiques. Mais moi, il me semblait qu'il était venu pour les bouleverser. Il nous parlait de start-up et en fait, là, il se la joue rentier. Oui, il y a une forme de mépris, pas tellement à l'égard des candidats et candidates, mais à l'égard du jeu démocratique et des Français et des Françaises.
La position du chef de l'État irrite donc au plus haut point ses adversaires. C'est scandaleux, déplore un conseiller très proche de l'un des candidats, forcé de subir les contraintes imposées par Emmanuel Macron.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
On termine ce journal avec un mot de foot.
Et la fin de la 28e journée de Ligue 1. Hier, victoire du PSG sur Bordeaux, 3-0. Défaite de Lyon à domicile contre Rennes, 4-2. Marseille s'est imposé à Brest, 4-1. L'OM qui remonte sur la deuxième marche du podium.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban et à tout à l'heure.
À 5h08, les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 201 Al-Hakim, bien né puisqu'il est issu du crack étalon Siyouni, dont le prix de saillie a été fixé pour cette saison de monte à 140 000 euros. Ce poulain n'a pas été revu depuis sa victoire du 27 novembre à Chantilly, sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi. Engagé dans les classiques du printemps prochain, la poule d'essai des poulains et le prix du Jockey Club, nul doute qu'il devrait pouvoir, dès aujourd'hui, afficher ses prétentions en s'adjugeant cette course, un tremplin idéal pour la suite très attendue de sa carrière. Alors notez bien pour Chantilly, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 1, Al-Hakim.
Al-Hakim, merci beaucoup Thierry Léger et vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon lundi matin. Place à votre pressing sur Europe 1, les trois histoires de ce 14 mars. Et avec nous, Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Bonjour.
Et à la une de vos journaux à 5h10, la France lève enfin le masque malgré le rebond du Covid. C'est le titre du Figaro. Vive la liberté, s'enthousiasme Yves Triard, qui ne peut s'empêcher de remarquer que le Covid est une victime collatérale de la guerre en Ukraine. À la télévision, dit-il, les experts militaires ont remplacé les experts sanitaires. Pourquoi Poutine est un criminel de guerre? C'est l'accusation en une du Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien qui revient sur plusieurs attaques visant des civils, notamment le bombardement d'une maternité de Mariupol. En attendant, nous vivons une campagne présidentielle à l'ombre de la guerre. C'est le titre de Libération. Entre Emmanuel Macron, de facto candidat par intermittence, et les débats sur l'indépendance énergétique, l'invasion russe en Ukraine résonne sur la course à l'Elysée. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin?
Grâce au journal Le Parisien, on prend la direction de l'Oise, entre Angers et Mouy, le parking de l'Intermarché sur la départementale 12.
C'est effectivement
très précis. Des dizaines de voitures sont rassemblées, leur particularité pour bon nombre d'entre elles. Châssis rabaissés, jantes rutilantes, LED, gadgets, voire enceintes qui occupent tout le coffre.
Honnêtement, t'as une belle voiture, tu claques les watts. Le premier regard, c'est les watts. Et le deuxième regard, c'est la voiture. Et le troisième, c'est toi.
Oui, le troisième, c'est toi. Passion. Tuning, les rassos reprennent du service. Un rasso, c'est ce terme technique dans le milieu pour désigner les rassemblements de véhicules, de tout type de véhicules. Jonathan, l'un des organisateurs, est très clair. Toutes les voitures sont acceptées, retapées ou non, mais clairement, celles qui attirent le regard, les championnes du rasso. Eh ben, c'est ces bolides, hein, customisés, tunés. La star de ce dimanche est incontestablement la Mitsubishi Eclipse. de Quentin, réplique exacte de celle conduite par Paul Walker dans le premier épisode de la saga Fast and Furious. Voilà, quand on aime, on ne compte pas, effectivement.
Elle est de quelle couleur ?
Elle est verte fluo.
Ah, évidemment.
Elle est très belle, mais c'est exactement la même. Hein.
D'accord.
Alors, il compte plus, hein, Quentin, ni son argent, ni son temps, afin de reproduire au détail près la voiture du film. Autoradio, siège, bouton, manque plus que le pot d'échappement, dit-il. 35 000 euros investis jusque-là.
Ah oui, tout de même.
Et on imagine des heures passées sur des sites américains ou japonais à chiner des pièces détachées. Pas loin de lui, on retrouve Clément, qui, du haut de ses 21 ans, raconte avoir déjà acheté 37 véhicules pour les retaper et les revendre. D'un capot à l'autre, on croise d'autres jeunes gens, des étoiles plein les yeux, même quand ils n'ont pas encore décroché leur permis de conduire. Alicia, 21 ans également, fait des repérages, une 208 GTI l'attend. Elle a déjà tout prévu, hein. Peau, LED, déco. La particularité de ces rassemblements, c'est que les voitures sont garées, elles restent à l'arrêt. On ouvre le capot, on cause esthétique, performance, mécanique, pas de run. C'est-à-dire pas de course sauvage. Alors même si ce rasso sur le parking d'un supermarché le dimanche n'est pas autorisé, les gendarmes ferment les yeux car les voitures ne bougent pas et ce sont finalement des passionnés. Les rassemblements de passionnés de voitures et de tuning remettent le contact et redémarrent. C'est dans le Parisien.
Ça ne fait de mal à personne.
Exactement.
Merci beaucoup, Omblin. Et je précise que le petit extrait qu'on a entendu, c'est un extrait de l'émission Striptease, vieille émission de France 3, avec ce reportage sur le tuning.
Sur le tuning, un passionné de tuning.
Dans le nord de la France particulièrement. Voilà, merci à vous, Omblin. Martin, c'est à vous.
Oui, avec une famille en or ce matin, je vous emmène à Pékin, où les Jeux Paralympiques se sont clos hier. La France a remporté 12 médailles. Eh bien, figurez-vous qu'une famille, une seule, a quasiment fait aussi bien. Les Eigner, c'est des Autrichiens. La fratrie repart avec 9 médailles, dont 4 titres. Pour vous faire une idée, en classement des médailles, les Eigner seraient 8e devant des pays comme la Norvège ou le Japon.
Ah oui.
Alors, dans cette famille en or, il y a d'abord Elisabeth, l'aînée, la seule avec sa cadette, hein, Irmgard, à ne pas être déficiente visuelle. Un handicap que les 3 autres enfants ont malheureusement hérité de leur maman. Alors, Elisabeth a 23 ans. C'est celle qui a mis tout le monde sur les planches. À 22 mois, elle skiait déjà. Et ses frères et sœurs l'ont imitée. Aujourd'hui, policière, hein, elle sert de guide à sa petite sœur Véronica. Véronica qui a fait une véritable moisson sur la piste de Yanking avec 2 titres en géant et en slalom. À chaque fois devant la petite dernière de la famille, Barbara, 2 médailles également, tandis que le jumeau de Barbara, Johannes, raflait lui aussi 2 titres et 3 médailles d'argent. Alors on s'y perd avec tous ces prénoms, hein, mais au final le bilan est là et il est impressionnant. 9 médailles à 3.
Sacré bilan, et les parents dans tout ça ?
Eh bien, c'est les entraîneurs, hein, évidemment. Petra et Christian étaient eux aussi à Pékin pour manager la petite famille. Seule Irmgard, hein, est restée en Autriche pour s'occuper de la ferme familiale, même si elle aussi joue parfois, hein, le rôle de guide. Alors dans cette success story, hein, tout n'a pas été rose, évidemment. Véronica a vécu une saison très compliquée entre un accident de voiture et une violente chute à l'entraînement à quelques semaines seulement des Jeux, mais elle s'est relevée notamment grâce à l'aide de sa guide de sœur. Je lui dois tellement, avoue-t-elle. Alors, vous voulez une idée de ce qu'Elisabeth a fait pour elle ? Eh bien, il y a 2 ans, elle est prise de terribles maux de ventre lors de la dernière course de la saison, mais elle tient à concourir pour sa sœur. Les deux frangines l'emporteront avant que la guide soit transportée en urgence à l'hôpital pour être opérée de l'appendicite. Ouais, voilà, elle est prête à courir avec une appendicite pour que sa sœur gagne. Alors après leur triomphe de Yanking, hein, les Eigner prévoient une belle fête familiale. Barbara a déjà réclamé à ses parents une nouvelle chambre pour entreposer, hein, toutes les médailles familiales. Une chambre qui pourrait encore se garnir. Les Eigner ont tous moins de 20 ans et prévoient d'être là en 2026 à Milan. Chez les Eigner, les titres paralympiques sont une affaire de famille. C'est à lire sur le site de l'équipe.
C'est une jolie histoire. Merci beaucoup, Martin. On en parlait dans le journal de 5h. C'est aujourd'hui la suspension du pass sanitaire et de l'obligation du port du masque en intérieur. Une bonne nouvelle qui ne doit pas nous faire oublier toutefois que le Covid n'est pas une grippette, loin de là. Il y a déjà la réalité des chiffres. Le virus est responsable directement et indirectement de la mort de 18,2 millions de personnes dans le monde depuis le début de la pandémie, soit 3 fois plus que les chiffres officiels. C'est ce que révèle une étude publiée il y a quelques jours. Une autre étude médicale, celle-là, s'intéresse à l'impact du Covid sur notre cerveau. Et ces conclusions, croyez-moi, pourraient vous convaincre de ne pas tomber le masque aujourd'hui. On avait déjà observé sur des patients hospitalisés pour Covid des lésions sur leur cerveau. Mais il était impossible d'établir formellement un lien avec la maladie, car il faut pour cela pouvoir comparer des images cérébrales prises avant et après l'infection. C'est exactement ce qu'ont fait des chercheurs de l'université d'Oxford. Ils ont mis la main sur les IRM cérébrales et les résultats de tests cognitifs de 785 hommes et femmes âgés de 50 à 80 ans. des données datant de 2018, soit avant le début de l'épidémie. 3 ans plus tard, le Covid est passé par là, et plus de la moitié de ces personnes a été touchée par le virus avec des formes bénignes dans 96% des cas. Les scientifiques leur ont donc fait passer de nouvelles séries d'examens, et la comparaison des clichés est édifiante. Les altérations structurelles du cerveau des personnes infectées sont très nettes par rapport à celles qui n'ont pas contracté le Covid. Si on prend par exemple le liquide céphalo-rachidien, qui est chargé entre autres d'évacuer les déchets provenant de l'activité cérébrale, on constate que son volume a nettement diminué chez les patients ayant été touchés par le virus, avec cette conséquence, la masse de leur cortex a diminué. En clair, le Covid rétrécit le cerveau, ou plutôt rétrécit plus vite le cerveau, car en dehors de toute maladie, nous perdons, vous et moi, entre 0,2 et 0,3% de matière grise chaque année dans les régions liées à la mémoire. C'est l'effet du vieillissement. Ça veut dire qu'une personne ayant échappé au Covid a, au cours de ces 3 dernières années, vu son cerveau perdre un peu moins d'1% de sa taille. Eh bien, cette perte monte à 3% pour les patients ayant été contaminés. C'est comme si leur cerveau avait vieilli 3 fois plus vite. Et c'est d'autant plus vrai pour les septuagénaires et plus. Passé cet âge, les effets du virus s'accentuent.
Très rassurant. Est-ce que cette diminution de la taille du cerveau a des conséquences sur les capacités intellectuelles?
Alors, c'est justement ce qu'ont mesuré les chercheurs à travers une série d'exercices. Et là aussi, le verdict est implacable. Mince. Les personnes ayant été touchées par le Covid mettent quasiment 2 fois plus de temps pour résoudre les tests, même celles n'ayant souffert que de formes légères. Toute la question maintenant est de savoir si les effets du virus sont permanents ou réversibles. Si l'on en croit d'autres études antérieures, les anomalies cérébrales constatées semblent se résorber en partie 6 mois après l'infection. Mais cela demande à être confirmé. Le Covid rétrécit le cerveau, c'est à lire sur le site du Point.
Que de bonnes nouvelles.
Voilà, merci beaucoup Julien. C'est le pressing qui se termine et Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les principaux titres de ce lundi avec Alban Le Prince.
En Ukraine, l'armée russe frappe désormais tout le pays, notamment à une 20 kilomètres de la frontière polonaise. Hier, le président ukrainien réclame l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays et met en garde l'Occident. Les roquettes russes risquent de tomber sur les pays de l'OTAN. C'est une date qui n'aurait échappé à personne. 14 mars, la fin du masque obligatoire en intérieur pour aller au restaurant, faire du shopping ou ses courses. Il n'est plus exigé à partir de ce matin, sauf dans les établissements de santé et les transports. Le pass vaccinal est aussi levé dans les entreprises. C'est également la fin du protocole sanitaire.
Sur Europe 1, on donne chaque matin la parole à celles et ceux qui innovent. Vous le savez, ce sont les initiatives en France.
Bonjour Hugues de Chaumont.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur et président de GoSense, une entreprise basée à Lyon qui veut simplifier la vie des aveugles et des malvoyants grâce à un boîtier qui rend les cannes blanches intelligentes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Donc GoSense, on est labellisé entreprise sociale et solidaire. On a développé une technologie qui est brevetée en France, une technologie de réalité augmentée sonore 3D, c'est-à-dire qu'on met en son l'environnement de nos utilisateurs. Qui ne peuvent plus voir, mais qui par contre ont le sens de l'ouïe qui est très développé. Donc on capitalise là-dessus. Et donc on a conçu une technologie de réalité augmentée sonore qui s'appelle Rango. Rango, c'est un petit produit électronique qui se fixe sur tout type de canne blanche, qui est connecté au smartphone de l'utilisateur. L'utilisateur va connecter des écouteurs qui sont particuliers puisqu'ils sont ils rentrent pas dans l'oreille, donc l'utilisateur reste alerte à son environnement sonore, ce qui est important quand on est une personne déficiente visuelle. Et donc Rango, son job, c'est de sécuriser l'utilisateur dans ses déplacements. Il va analyser les déplacements de l'utilisateur, il va traquer les obstacles qui sont sur le parcours de l'utilisateur. Et lorsqu'il y a un obstacle...
C'est une sorte de radar en fait, c'est ça ?
Exactement Julien, c'est une sorte de radar. On envoie des ultrasons. Et on va analyser l'environnement de l'utilisateur. Et dès qu'il y a un obstacle qui est sur le parcours, le chemin de l'utilisateur, on va l'alerter par un son, mais un son en 3 dimensions.
C'est-à-dire ?
Alors, un son en 3D, c'est tout simplement là où il y a le son, c'est là où il y a l'obstacle. Donc, Rango va détecter un obstacle. Et si l'obstacle, par rapport à vous, est sur votre gauche, vous allez entendre un son qui provient de la gauche. Et donc, vous allez entendre un son dans votre oreille gauche. Si l'obstacle est à droite, vous allez entendre un son dans votre oreille droite. Donc c'est vraiment de la 3 dimensions.
Ouais. Le résultat, c'est que les personnes aveugles équipées de votre système se déplacent plus rapidement, en tout cas avec moins d'appréhension ?
La canne blanche, elle est limitée pour les obstacles qui sont à mi-hauteur ou en hauteur. Et donc, Rangaud, lui, va venir augmenter la canne blanche. Et puis, en fait, aussi, très souvent en pratique, quand on balaye avec sa canne blanche, eh ben, avec le balayage, on va pouvoir aussi louper des obstacles au niveau du sol. Donc, c'est quand même très important. Rangaud, lui, finalement, rend la canne blanche bien plus performante. Mais il réutilise la canne blanche, il va venir se fixer sur la canne blanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la canne blanche, elle permet de se signaler aussi en tant que personne déficiente visuelle. C'est-à-dire que vous, Julien, si vous allez dans la rue et que vous voyez une personne avec une canne blanche, vous allez vous dire « Ah, il faut que je fasse attention à cette personne parce qu'elle est aveugle ». Donc c'est important.
Je crois que le boîtier ne se contente pas, et c'est déjà très bien, hein, mais de détecter les obstacles, il sert aussi de GPS ?
Oui, voilà, une fois que Rangaud, en fait, son premier job, c'est la sécurité. Mais une fois qu'on est en sécurité, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est et ce qu'on a autour de soi. Et donc, Rangaud, il va proposer d'autres services. Parce que comme il est connecté au smartphone de l'utilisateur, qu'il a une application mobile dédiée, on va pouvoir le mettre à jour, faire des mises à jour logicielles. Et grâce à ça, on va proposer des nouveaux services à la mobilité qui sont vraiment des services résolument urbains. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir votre localisation. Donc, Rangaud va vous dire où vous êtes, dans quelle rue, à quel numéro. Mais vous allez pouvoir aussi accéder à toutes les horaires de passage des transports en commun, les bus, les métros, les tramways, mais aussi les trains régionaux, les petites lignes. Et donc ça, c'est possible en France, mais c'est aussi possible dans le monde entier. C'est accessible dans votre langue, dans le monde entier, et gratuitement grâce à Rangaud. Donc en fait, vous êtes à votre arrêt de bus et vous avez accès à vos horaires en totale autonomie. Si vous marchez dans la rue, vous allez pouvoir aussi être alerté et avoir la description vocalisée des carrefours et des intersections que vous allez croiser. Et en plus, cette description, elle va être spatialisée, c'est-à-dire qu'il y aura du son 3D, c'est-à-dire que l'information va être en trois dimensions et donc la personne va entendre la description de toutes les rues qui constituent son carrefour, que elle doit analyser, elle doit traverser. Et comme les informations sont vraiment en trois dimensions dans son environnement, quand elle entend le nom de la rue, elle sait que si la rue est à 30 degrés à gauche, parce qu'elle l'entend par le son, eh ben, elle arrive tout de suite à visualiser son carrefour. Et donc, ça permet de traverser piétonne plus facilement et surtout en restant en sécurité, puisque de temps en temps, les personnes aveugles peuvent se mettre à traverser une rue sans s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, on est dans des espaces urbains qui sont partagés avec des piétons, des transports en commun, des voitures. Et donc, on n'a pas toujours une différence au niveau du sol entre le trottoir et la route. Oui. Voilà.
Combien de personnes utilisent au quotidien votre produit ?
Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 400 utilisateurs. Les utilisateurs les plus jeunes ont moins de 15 ans. Et les utilisateurs les plus âgés ont plus de 80 ans. Vous vous rendez compte ? Tous sont formés et tous bénéficient d'un suivi réalisé par GoSense, qui fait partie du kit Rangaud. Et tout ça se fait à distance par téléphone. Et ça marche super bien. On a réalisé une étude auprès de nos utilisateurs fin 2021, puisqu'on était en train de certifier Rangaud, de le rendre conforme aux normes du dispositif médical au niveau européen.
Pour qu'il soit remboursé, c'est ça ?
Voilà, exactement, pour qu'ils puissent être remboursés. Et dans ce cadre-là, on a fait une étude sur l'impact de Rangaud chez nos utilisateurs. 96% de nos utilisateurs disent que Rangaud a significativement amélioré leur quotidien. Et vous avez un utilisateur sur cinq qui va même jusqu'à nous dire que Rangaud a changé sa vie. Donc effectivement, vous voyez juste, Julien, si je peux me permettre, effectivement, Rangaud a un impact. Ouais.
Merci beaucoup, Hugues de Chaumont, de nous avoir présenté GoSense et son boîtier Rangaud qui change la vie des aveugles. On peut se le procurer, je précise, directement via votre site internet gosense.com. Bonne journée,
voilà,
à bientôt.
Merci Julien.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h28 sur Europe 1, bienvenue et bon réveil. Demandez le programme de la prochaine demi-heure, ma chère Omblin, et comme tous les lundis, à suivre notre conseil série.
Oui, c'est la série événements de Canal+, hypnotique, addictive, angoissante, avec un côté gore dérangeant, juste ce qu'il faut. Yellow Jackets, suite des lycéennes après le crash de leur avion en pleine forêt, et c'est le choix de Marie Jiquel ce matin.
Et puis, on va y revenir dans le journal de 5h30. Nouvel allègement du protocole sanitaire ce lundi, c'est la fin du port du masque obligatoire en intérieur.
À l'école, les élèves peuvent enfin s'installer en classe le visage découvert, retrouver le sourire de leurs camarades, de leurs enseignants, l'occasion de se demander notamment si le masque à l'école a eu un impact sur les apprentissages des enfants, l'apprentissage du langage, de la lecture. Nous serons dans un quart d'heure avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont.
La météo, Anissa Dadi, le ciel reste gris et nuageux dans le sud.
Oui, en Nouvelle-Aquitaine, sur le midi toulousain, le Languedoc-Roussillon, la Provence, la Côte d'Azur et une partie de la Corse, hein, l'ouest, l'est de la Corse, pardon, avec des averses toute la journée. Alors, le département de l'Hérault est toujours en vigilance orange crue, vous le savez, on a eu un épisode méditerranéen assez fort ce week-end. Alors, c'est terminé, en 48 heures, il est tombé jusqu'à 4 mois de pluie par endroit, on a dépassé les 400 mm sur certaines communes. Donc, il y a encore des débordements. Prudence, le temps sec n'est pas encore de retour sur le Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on a des pluies bien moins fortes que ces derniers jours, mais le temps est encore humide sur le golfe du Lion. Au nord, patience. Patience avant le retour du soleil. Ce matin, on a des petites averses résiduelles. Vous le savez, après le passage d'une perturbation, c'est assez fréquent. Donc sur l'Alsace, la Lorraine, le long des côtes de la Manche, en Bretagne, on a encore des petites pluies ce matin. Mais cet après-midi, le temps redevient sec partout sur les deux tiers nord avec un temps bien plus lumineux. Moins 2 ont pu envoler, il fait moins froid aussi. Hein. Moins 1 à Clermont-Ferrand et Auxerre, 3 à Sisteron, 5 à Paris, 11 à Biarritz ce matin.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une ce matin, la fin du port du masque obligatoire et du pass vaccinal. On retrouve ce matin notre vie d'avant, toutes les modalités dans ce journal. Et les Ukrainiens continuent de fuir leur pays, ils sont plus de 2 700 000. Europe 1 a retrouvé Julia, elle est retournée dans la famille qui l'avait accueillie petite après la catastrophe de Tchernobyl. Et puis, un concours de vidéos de supporters avant le match du tournoi des 6 nations France-Angleterre ce samedi. On vous a choisi les meilleurs extraits.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Il flotte ce matin comme un petit air de liberté avec la fin du port du masque obligatoire dans les lieux clos, les théâtres, les cinémas, les musées, ainsi que dans les salles de classe et au travail. C'est la levée d'une grande partie des restrictions sanitaires mises en place en raison de la pandémie. Yasmina Katou, c'est une très très longue page qui se tourne ce matin.
Oui, la vie d'avant reprend son cours ce lundi. Le masque peut bien rester au fond de la poche pour se rendre dans les magasins et dans les centres commerciaux. Dans les entreprises, vous retrouverez le visage de vos collègues puisque le masque n'y est plus obligatoire. Les élèves qui n'ont déjà pas à garder le masque dans la cour de récréation peuvent rester à visage découvert dans les classes. Même chose pour les professeurs. Tous les lieux publics, les mairies, les préfectures sont depuis ce matin accessibles sans masque. Il reste en revanche obligatoire dans les transports collectifs, dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Pour accéder aux établissements médico-sociaux, un pass sanitaire sera toujours demandé. Il faut donc présenter un test négatif, un certificat de rétablissement ou une preuve de vaccination. Ce lundi, c'est aussi la suspension du pass vaccinal, ce qui veut dire que dans les restaurants, les cinémas ou encore les TGV, l'accès est désormais possible à toute personne, qu'elle soit vaccinée ou non. La dose de rappel n'est donc plus nécessaire, mais elle reste recommandée par les autorités de santé.
Les précisions de Yasmina Katou pour Europe 1.
Alors, on vient de l'entendre ce matin, nous redécouvrons le sourire ou pas de nos collègues.
Ça dépend, dans les écoles, c'est la même chose. Certains enfants ne connaissent pas le visage de leurs enseignants. Pour eux, c'est une bouffée d'oxygène, mais pour les profs, c'est un peu anxiogène. Cécile Denier-Forlicher est prof dans un collège de Bordeaux. Elle ne compte pas changer ses habitudes.
Non seulement je continuerai à porter le masque, mais j'ai des élèves de troisième qui, quand il était question de cette nouvelle mesure, se disaient qu'eux-mêmes ne voulaient pas enlever le masque. Ils étaient quand même inquiets. On a tous envie de l'enlever, hein, même moi, hein, évidemment, on a tous envie de revivre normalement, mais ça paraît tellement évident que c'est à partir du moment où on enlève le masque, le risque de contamination explose, quoi. Et il se pose aussi des questions quant au contact tracing. Comment va-t-il être fait? Est-ce que les professeurs vont enfin être considérés comme cas contact quand il y a des cas positifs dans leur classe, puisque jusqu'à maintenant, je vous rappelle que grâce au masque magique, les professeurs n'étaient pas considérés comme cas contact, même quand les trois quarts de leur classe étaient positives.
Un propos recueilli par Johan Tritz, c'est noté qu'en Chine, l'épidémie repart à la hausse. Pékin a reconfiné 17 millions de personnes à Shenzhen, dans le sud du pays, après le signalement de 66 nouveaux cas, et toutes les écoles de Shanghai sont fermées.
L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est l'armée russe qui continue de bombarder massivement l'Ukraine.
Des zones jusque-là épargnées sont désormais visées. Pour la première fois, une frappe russe s'est abattue près de la frontière avec la Pologne sur une base militaire. La capitale Kiev est-elle en état de siège? La population fait des provisions de vivres et de médicaments et les autorités font installer des barricades.
Ce qui explique le départ de plus en plus massif des Ukrainiens vers d'autres lieux, d'autres pays plus sûrs.
Oui, ils sont 2,7 millions à avoir quitté leur maison pour se réfugier dans d'autres pays. La France d'ailleurs s'attend à accueillir 100 000 personnes dans les prochaines semaines. Et c'est ce qu'a fait Julie. La jeune femme est de retour dans la famille qu'il avait accueillie quand elle était petite fille. À l'époque, elle était venue dans le Nord se refaire une santé. C'était juste après la catastrophe de Tchernobyl. Et Lionel Gougelot a assisté aux retrouvailles pour Europe 1.
Un appel de Julie au petit matin aux premières heures de la guerre. Au téléphone depuis la France, Daniel a tout de suite pris conscience du danger pour la jeune Ukrainienne.
Et là, elle me montre dans le ciel les missiles qui passent. Donc, j'ai dit, il faut venir. Tu prends ton fils, tu viens. Et puis après, on a mis en place l'autobus.
Il a fallu organiser le rapatriement de celle qui, adolescente il y a 20 ans, venait ici au bord de la mer pour régénérer son organisme affaibli par les retombées radioactives de Tchernobyl.
Je n'aurais pas laissé ma Julie dehors. Je ne la laissais pas là-bas sous les bombes.
Une semaine d'attente avant de la serrer à nouveau dans ses bras.
Elle est devenue notre fille. Moi qui n'avais pas eu de fille, j'ai eu une fille. C'était ma grande joie.
C'est ma famille. On dit comme ça que les fils de Daniel et Roger, c'est mes frères.
Une famille française qui avait pris soin d'elle après le nuage nucléaire et qui aujourd'hui la sauve de cette guerre avec son fils. Mais Julie n'en oublie pas pour autant son pays.
Oui, on pense beaucoup parce qu'il y a encore des amis, des familles. On appelle tous les soirs, tous les matins. Ça va, si c'est bien se passer la nuit, parce que la nuit c'est pire. Mais nous, on est calme. Ça va, c'est mieux.
On va faire tout pour qu'ils soient bien. Après, c'est vrai que c'est normal qu'ils retournent dans leur pays libérés.
Car malgré les images de désolation et les ravages des bombardements, Julie pense déjà à l'avenir et à la reconstruction de son pays.
Le récit de Lionel Gougelot pour Europe 1.
Et conséquence de la guerre, notre pouvoir d'achat ne va pas aller en s'améliorant.
À peine remise de la pandémie, l'économie française sera pénalisée par cette guerre, nous dit la Banque de France. La croissance devrait donc ralentir entre 2,4 et 2,8% au lieu de 3,9%, moins de croissance et plus d'inflation. En fonction du prix du pétrole, elle devrait s'établir entre 3,7 et 4,4.
Et si vous déclariez votre amour au 15 de France dans une vidéo ?
Oui, alors samedi prochain, c'est le crunch. Vous savez, ce match qui oppose les Bleus du rugby à l'Angleterre dans le tournoi des Six Nations. À la clé cette année pour l'équipe de France, le Grand Chelem. Et pour marquer le coup, la Fédération française lance un concours pour encourager le 15 de France. Axel May, les Bleus sont des supporters très créatifs.
Oui, plus de 200 vidéos ont été envoyées à la Fédération française de rugby, comme celle de ce supporter qui se filme dans sa cuisine avec un roast beef et un poulet fermier posé sur une table devant lui.
Un beau roast beef, tu l'enfournes 40 minutes au four à 200 degrés dans un stade de France bouillant. C'est simple un crunch, un poulet vaillant, un coq vaillant, fier et un British cramé.
Les 15 meilleures vidéos de ces supporters déclarant leur amour à l'équipe de France ont été sélectionnées par les joueurs eux-mêmes et Romain Ntamack leur a adressé un clin d'œil.
Donc rendez-vous au Stade de France et merci encore pour votre soutien. À bientôt.
Samedi, ces 15 chanceux assisteront donc en tribune au crunch, transport et nuit d'hôtel prise en charge par la Fédération française, des supporters qui chanteront à s'en casser la voix.
Rien de mieux qu'une bonne Marseillaise a cappella reprise par l'ensemble des supporters. Allons enfants de la patrie.
Et pour eux, j'ai composé même le chant qu'il faut pour le 15 de France. Allez-y pousser plaquer les avants de France, allez-y pousser plaquer les avants français.
Si avec ça on gagne pas le tour de destination, on voit pas comment on pourrait faire.
Un coq vaillant et un roast beef cramé. Je crois que ça sera la phrase de cette matinée.
Ils ont vraiment beaucoup de créativité. Le football et moins de créativité pour les Brestois hier soir battus par l'Olympique de Marseille à domicile. Marseille avec ce succès 4-1 remonte à la deuxième place de la Ligue 1.
Merci beaucoup Lénec Meunier pour toutes ces informations. On passe aux courses hippiques, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est sur les 2700 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Saint-Nicolas, le numéro 10, 7 fois à l'arrivée à ce niveau en 14 tentatives, et qui sera associé au crack-jockey Christophe Soumillon, ces deux-là s'étant déjà imposés ensemble le 7 décembre sur le parcours qui nous intéresse. On lui opposera le numéro 2 Checkpoint Charlie, récent facile lauréat d'un quintet similaire, le 16 février à Caen-sur-Mer, en devançant justement mon favori Saint-Nicolas, mais qui devra porter cette fois une surcharge de 3 kilos avec Yoker, le numéro 1, très confirmé sur ce parcours et qui me semble être pris à son juste poids pour sa première tentative dans un quintet. Ensuite, méfiez-vous des numéros 13, Escapade Nocturne, 8, Zillion Sun, 7, Piette, 6, Honor and Pleasure et 4, Goya Senora, ces 5 chevaux ayant assurément des arguments solides pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet. Mon pronostic, 10, 2, As, 13, 8, 7, 6 et 4.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Alger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et aujourd'hui, 14 mars 2022, cela fait 50 ans que le film Le Parrain de Francis Ford Coppola est sorti aux États-Unis. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Laure, Le Parrain, The Godfather en anglais, c'est un chef-d'œuvre du cinéma qui va révéler l'acteur Al Pacino.
Oui, Al Pacino sort de l'anonymat grâce à ce film. Ce n'était pas gagné, il a dû passer des essais encore et encore. Coppola est convaincu, mais pas le producteur du film. Même chose pour Marlon Brando, pour incarner le chef d'un des groupes de la mafia de New York. Mais après une seule répétition, c'est l'évidence, c'est lui qui jouera ce rôle.
Aujourd'hui, on est pleuré chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice. Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain ?»
Le film sort donc en mars 72 et pulvérise les records au box-office, rapportant 134 millions de dollars pour un budget initial de 6 millions. Le mot « mafia » n'est jamais employé dans le film, ce sont des membres de la mafia qui ont exigé cela. Mais tout ce qu'on voit à l'écran correspond à la réalité, explique en 1972 l'écrivain Auguste Le Breton sur Europe 1, auteur de livres sur la mafia.
C'est la réalité en ce sens que ce sont les mœurs typiquement siciliennes, les histoires de religion que l'on voit dans le film, les histoires de famille surtout, puisqu'ils ont le culte de la famille. Au point de vue religieux, ils ont toujours été très croyants et très pratiquants, même s'ils vivent en marge des lois, et très secrets. L'argent gagné peut-être d'une façon brutale débouche souvent sous des carrières avec des générations sautées extraordinaires.
Et après le film Le Parrain, la vie de Coppola s'est transformée.
Oui, il fait fortune. À l'âge de 36 ans, Coppola avait déjà gagné 5 Oscars. Il gagne beaucoup d'argent avec le cinéma, mais il en perd beaucoup aussi en investissant dans des vignes. En 1988, sur Europe 1, Coppola confiait sa passion pour le vin.
Je pense que mon intérêt pour le vin a commencé parce qu'en tant qu'Italo-Américain, nous avons toujours eu du vin dans la famille. Mon grand-père faisait du vin à la cave. J'ai annoncé que je serais très heureux d'en apporter en France.
The French wine producers of the
Mais que les producteurs français ne s'inquiètent pas, j'en apporte très peu.
Et en 1996, Coppola fait un parallèle entre le cinéma et le vin.
Vous commencez avec ce que Dieu vous a donné, et puis après il faut travailler avec votre intelligence et vos mains et essayer d'en tirer le maximum.
Coppola a aujourd'hui 82 ans, il habite en Californie, sur les terres d'un vignoble. Il a dit aussi à plusieurs reprises dans des interviews que d'une certaine manière, son film Le Parrain l'avait détruit, parce que tout ce qu'il a fait par la suite a été comparé à ce film.
Merci beaucoup Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant, la fin du masque à l'école, à tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h42 et c'est aujourd'hui la fin du masque obligatoire en intérieur et notamment à l'école. Seuls ceux qui le souhaitent pourront le garder en classe. On en parle Omblin avec la psychologue clinicienne et auteure d'ouvrage Marie-Estelle Dupont.
Bonjour Marie-Estelle Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour échanger sur ce retour à la normale, que je mets entre guillemets, en ce lundi 14 mars. 2 ans presque jour pour jour après le début du confinement, les enfants vont enfin pouvoir suivre des cours en classe et le visage découvert. Votre premier sentiment, enfin, la libération?
Un soulagement pour nos petits qui sont privés quand même de nombreuses heures par jour du visage humain. Un soulagement mitigé néanmoins parce que malheureusement la fin du masque c'est un petit peu comme un déconfinement, c'est pas parce que ça s'arrête que les dégâts sont supprimés. Nous on a été quand même les cliniciens, les orthophonistes, les pédopsychiatres très préoccupés de ces longues mesures qui ont généré un grand nombre de symptômes et de pathologies chez des enfants qui n'avaient pas d'antécédents et notamment pour commencer des troubles de l'apprentissage. Donc nous allons avoir beaucoup de pain sur la planche en fait pour les faire revenir à une socialisation et une vie intellectuelle normale. Ce sont des enfants qui ont développé des symptômes anxieux, des troubles du sommeil, beaucoup de troubles psychosomatiques, des céphalées, des troubles alimentaires et puis qui ont été baignés pendant 2 ans dans la peur constante, la peur de mal faire, la peur d'être grondé, la peur de ne plus pouvoir aller à l'école si... ils sont positifs ou la peur d'être punis si le masque est mal mis. Donc ce sont des enfants qui ont été pris en otage dans des peurs d'adultes, avec une grande aversion finalement des valeurs, hein, si on y pense, puisque les écoles ont été impactées, la vie scolaire a été impactée pour une maladie qui n'est pas une maladie pédiatrique.
Alors on va revenir précisément sur cette psychose que vous venez de décrire. Est-ce que avec ces masques, ces règles sanitaires qui changeaient, ces cours à distance, des profs absents, alors vous avez exposé un certain nombre de dégâts. Ces deux dernières années chaotiques vont aussi laisser des traces d'un point de vue de la pédagogie, de l'apprentissage également.
Mais il faut comprendre en fait qu'un enfant pour apprendre la vie en société et pour apprendre des contenus pédagogiques a d'abord besoin de repères. Et en réalité, toutes les injonctions paradoxales, les changements, les bouleversements permanents, le fait que oui, certes, il tombe le masque, mais vous voyez, j'avais encore un message aujourd'hui d'une maman qui me disait « Ma fille va quand même être isolée pendant une semaine parce qu'elle a eu le Covid en janvier, donc elle n'est pas vaccinée et comme elle est cas contact, elle va être isolée ». Donc on voit bien en fait que les mesures sanitaires ne disparaissent pas simplement parce que le masque est enfin retiré, Dieu soit loué, ce que nous supplions le gouvernement de mettre en place depuis des mois. Donc oui, ils ont été bouleversés dans leurs repères, le testing massif, et puis cette obsession en fait de la maladie qui faisait finalement de l'école non plus un lieu d'apprentissage et de socialisation, mais un lieu de peur et finalement d'exclusion. Donc il y a une vraie confusion des places, où l'école est presque devenue soit une cour de prison, soit un pôle de santé, et où l'autorité parentale si importante en fait, que l'enfant a tant besoin de pouvoir respecter, parce que respecter une figure parentale, c'est aussi pouvoir se reposer dessus et faire confiance. Et donc l'autorité parentale étant devenue un peu une variable d'ajustement et très souvent contredite par la parole officielle, il était difficile pour les enfants de se reposer sur ce cadre. Et on sait bien que quand un enfant n'a pas de répit psychique et que ses repères sont bouleversés, son cerveau fabrique énormément d'hormones de stress, du cortisol, et que ces hormones perturbent la mémoire à long terme et donc les apprentissages. Et là, je ne parle même pas du distanciel. Pour le distanciel, oui. On a entendu que l'école à distance permettait des apprentissages. Sur le long terme, ce n'est pas vrai, et ce, quelle que soit la tranche d'âge. Moi, j'ai eu des étudiants en grandes écoles, HEC, etc., qui me disaient « je n'ai absolument aucune idée, je serai incapable de vous dire ce qu'on a abordé cette année ».
Il va y avoir une perte de niveau.
Bien sûr, il y a une baisse de QI, il y a une perte de niveau, et puis il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que l'autre n'est plus vu comme un besoin, une relation nécessaire, mais comme un danger potentiel, comme une menace potentielle. Donc, on se doute bien que pour ces enfants et ces jeunes adultes, se projeter dans un monde où l'autre est avant tout un potentiel danger et où ils sont potentiellement dangereux pour l'autre, c'est menacer l'unité du corps social. Donc leur socialisation, et dès les bébés en fait, les bébés, on voit bien qu'ils n'avaient pas accès dans les crèches au visage humain et que ça a généré beaucoup de retard de parole, mais aussi une difficulté à identifier les émotions de l'autre. Donc ça a généré des symptômes dépressifs, mais ça a aussi généré beaucoup d'agitation et beaucoup de symptômes agressifs.
Mais cette psychose hygiéniste, si on peut l'appeler comme ça, elle peut être durable, elle peut s'inscrire dans le temps et dans la vie d'adulte, même si l'enfant aujourd'hui a 2 ans. Est-ce que c'est irrémédiable, selon vous ?
Oui, le corps social a mis en place un rapport pour tout le monde assez terrorisé au corps et au vivant, c'est vrai. Mais nous, les parents, nous avons un rôle à jouer extrêmement important, quoi qu'on en dise, et même si l'autorité parentale est mise de côté, au quotidien, nous avons la liberté au sein du foyer de distiller auprès de nos enfants une autre parole, une parole apaisante, une parole de confiance, et les regarder quand on leur parle, les regarder dans les yeux, leur sourire, et permettre à nos enfants d'avoir accès à cette hygiène de vie en maintenant le plus possible des activités sportives notamment, mais aussi les activités ludiques pour développer leur imaginaire. Ça, c'est quelque chose qui est dans nos cordes. Et nous, en tant que parents, nous avons vraiment à la fois le pouvoir, c'est une bonne nouvelle, et la responsabilité, donc c'est une forte incitation, à le faire et à le maintenir. Donc nous pouvons quelque chose pour que nos enfants ne grandissent pas dans un paradigme totalement traumatisé où il faudrait être dans des scaphandres, isolés les uns des autres pour ne pas risquer de mourir.
Et on va se quitter sur ce message d'espoir. Alors merci beaucoup Marie-Estelle Dupont d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteur. Merci encore et très bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h49, les titres principaux de ce lundi avec Alban Le Prince.
La guerre en Ukraine et ce nouvel appel de Volodymyr Zelensky, le président, cette nuit. Il réclame l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays et prévient les roquettes russes vont tomber sur les pays de l'OTAN. La capitale Kiev est en état de siège, c'est ce qu'écrit un conseiller de Volodymyr Zelensky sur Twitter alors que la situation devient de plus en plus compliquée sur place. Les pourparlers doivent d'ailleurs reprendre aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens par visioconférence. En Corse, la manifestation de soutien à Ivan Colonna, toujours dans le coma, s'est transformée en émeute hier après-midi à Bastia. Bilan, 67 blessés, dont 44 membres des forces de l'ordre. Le centre des impôts a été incendié, fait savoir le procureur de Bastia.
Et on en vient à la prescription culture et le lundi, on parle série.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Mine, bonjour Julien.
Bonjour Marie, on va parler de Gilets jaunes avec vous. Pas ceux que vous croyez, hein, les Gilets jaunes de la série dramatique Yellow Jackets diffusée sur Canal+.
Yellow Jackets, ce sont ces vestes, ces teddy américains portés par les membres d'une équipe de sport. Ici, on parle de jeunes adolescentes membres d'une équipe de football dans les années 90, victimes d'un crash d'avion.
Ce qui est arrivé était une tragédie, mais ces filles-là étaient à part.
Ne traînez pas trop pour vous installer, le vol va être long.
C'était des championnes.
L'avion s'est écrasé, plusieurs de mes amis sont morts et pour ceux d'entre nous qui ont survécu, on a crevé de faim et prié pendant 19 mois jusqu'à ce qu'ils finissent par nous retrouver.
Voilà, vous l'avez compris, le cauchemar commence, perdu dans une forêt canadienne. Les coéquipières vont devoir s'entendre sur un autre terrain, celui de la survie dans ce milieu hostile pendant 19 mois. Et c'est tout le sel de cette série à suspense, sans savoir comment elles ont survécu. Alors, petit indice et bon petit-déj aux auditeurs, on apprend qu'elles n'ont pas mangé que des herbes et des racines. Âme sensible, s'abstenir.
Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a du cannibalisme dans l'air de bon
voilà,
matin. En tout cas, ça rappelle un fait divers connu, celui du crash dans la cordillère des Andes de l'équipe d'Uruguay de rugby en 72.
Oui, les survivants de cet accident l'ont avoué, hein, ils se sont nourris de l'impensable pour survivre dans ces montagnes. Cette tragédie a inspiré la série qui rappelle également le roman Sa Majesté des Mouches de William Golding. Encore une histoire de crash d'avion et de survivants bien déboussolés.
La série Yellow Jackets joue sur deux temporalités. Hein. Marie, il y a celle du crash et puis celle 25 ans plus tard.
Oui, donc on retrouve nos héroïnes plus âgées, toutes traumatisées par cet événement. Et même si elles ne sont plus vraiment copines, elles sont forcément liées par ce lourd secret qu'une journaliste tente de percer. Les anciennes sportives vont donc se réunir contre leur gré.
On devait en raconter un minimum et éviter au maximum le feu des projecteurs.
Shona,
Attaï, je t'ai vue sur une foutue chaîne de télé. Si quelqu'un creuse vraiment, c'est mort, on tombe.
Voilà, à côté casting, il y a entre autres les actrices américaines Juliette Lewis et Christina Ricci.
Et ce qu'on comprend, Marie, c'est qu'on assiste à un mélange des genres, hein, teen movie, donc c'est sitcom pour adolescents, thriller et gore, et une bande-son très rock, hein, qu'on entend d'ailleurs là.
Oui, et pour la petite info, la série a été adoubée par le maître de l'horreur, l'écrivain Stephen King, qui l'a décrit sur Twitter comme « A Hell of a Good Survival Story », une sacrée bonne histoire de survie. Immense succès aux États-Unis, on annonce 5 saisons pour cette aventure très humaine.
Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin.
Très humaine, oui.
Ah, vraiment, Yellow Jackets, 10 épisodes de 50 minutes à regarder avec parfois la main pour se cacher les yeux. C'est sur Canal+. Merci beaucoup, Marie Jiquel.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h56 sur Europe 1, dans un instant, la météo, le journal et votre invité Julien.
Le politologue et chercheur en relations internationales Benjamin Haddad qui va décrypter pour nous les derniers développements en Ukraine où très clairement on assiste à une escalade de la violence, maternités et hôpitaux bombardés, civils pris pour cible. Dernier épisode en date, cette base militaire ukrainienne située à 20 km seulement de la frontière polonaise visée hier par des missiles russes. Jusqu'où peut aller Poutine pour abréger au plus vite ce conflit? L'option armes chimiques est-elle sur la table comme le redoutent les Américains? On apprend par ailleurs ce matin dans le New York Times que les Russes auraient demandé une aide économique et militaire à la Chine. On en parle dans une dizaine de minutes. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Il est le point commun entre Frank Sinatra, Ray Charles et Michael Jackson. Le surdoué Mr. Q, le producteur et chef d'orchestre Quincy Jones, dans 20 minutes.
Ma chère Anissa Dadi, est-ce que la météo est raccord avec du Quincy Jones ce matin?
C'est pas mal parce que vu
qu'il y a
une amélioration, on peut donner 2-3 coups de trompette pour se donner la pêche en ce lundi.
En tout cas, il y a beaucoup de vent.
Il y a beaucoup de vent. Il y a un épisode vente qui a commencé cette nuit et qui va s'accentuer aujourd'hui. Ça concerne le Midi-Pyrénées où le vent d'OTAN va se lever. Alors ce matin, on a des rafales à 80 km/h et très rapidement, vous allez le sentir, le vent va se renforcer avec à la mi-journée des rafales jusqu'à 110 km/h. Et ce vent, d'autant qu'il, vous le savez, hein, d'habitude souffle entre le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, et bien là, aujourd'hui, va remonter jusqu'au sud du Massif central. Sur le Languedoc-Roussillon, on a passé un week-end compliqué avec un épisode méditerranéen assez fort. Hein. On a eu 3 à 4 mois de pluie en 48 heures. Alors sur le Languedoc-Roussillon, ça s'arrange un petit peu aujourd'hui, mais la journée est encore humide avec des pluies, moins fortes que ce week-end évidemment. Le département de l'Hérault est toujours en vigilance orange crue. D'ailleurs, ce matin, la décrue de la Cesse et de l'Orbe dans l'Hérault devrait commencer ce matin si tout va bien. Au nord, nous avons encore quelques petites averses résiduelles sur la pointe bretonne, sur les côtes de la Manche, sur la Lorraine et l'Alsace. Mais très vite, le temps redevient sec au nord avec une journée bien plus lumineuse dans l'après-midi avec de belles éclaircies. Les températures, alors on va gagner 2-3 degrés, il fait moins frais. On a moins 3 à Montluçon, moins 1 à Brive, 2 à Lyon et Poitiers, 5 à Paris, La Rochelle et Nancy, 8 à Nice et Dunkerque et 11 à Bastia. Et cet après-midi, de la douceur au rendez-vous avec 12 degrés à Cherbourg, 14 au Canet en Roussillon, 15 à Paris et Metz, 17 à Aix-les-Bains. Et 19 pour Ajaccio.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et vous faites bien. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le lundi 14 mars. Et il est 6h. Toute l'Ukraine sous le feu des forces russes, des bombardements près de la frontière polonaise ce week-end. 10 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de la guerre. Reportage à suivre dans une école de Picardie. Est-ce que vous sentez la différence? Fini le masque à l'école et au bureau à partir d'aujourd'hui, alors que l'épidémie, elle, rebondit. Et puis la campagne électorale avec une première émission télé ce soir pour le candidat Macron autour de 7 adversaires. À gauche, Anne Hidalgo change de stratégie avec une nouvelle cible. Explication à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Jusqu'où la guerre peut-elle s'étendre? Des frappes russes à 20 km de la frontière polonaise, porte d'entrée de l'Union européenne et de l'OTAN, une base militaire ukrainienne touchée, 35 morts et 134 blessés selon le gouverneur de la région.
2100 civils tués aussi à Mariupol, selon les autorités. Une ville où les tentatives d'évacuation ont échoué depuis le début du conflit. 2 700 000 Ukrainiens ont déjà quitté le pays.
Et 10 000 sont arrivés en France, même jusqu'à Senlis, en Picardie, où s'est rendu notre reporter Arthur Pereira. Depuis une semaine, l'école Notre-Dame du Sacré accueille 7 petits Ukrainiens pour des cours de français accélérés. Reportage.
Je m'appelle Camille.
J'habite en Ukraine.
J'ai 9 ans.
Parfait !
Assise sur un petit banc en bois, Camilla joue avec ses tresses brunes. Avec sa sœur, elles font partie des 7 enfants ukrainiens arrivés en France lundi dernier. Pour eux, pas de conjugaison ou de mathématiques. Aujourd'hui, ils apprennent les bases du français avec Anne-Laure, la bénévole.
Ils dessinent, ils jouent. On essaye de les faire parler, de leur apprendre des mots pour pouvoir au moins se présenter. Je m'appelle, j'habite, j'ai tel âge.
Juste à côté, Sviatoslav, 11 ans, s'amuse lors d'une partie de cartes avec d'autres enfants.
Je suis content de l'accueil qui m'est fait ici, en France. Et j'apprécie que ce groupe ait été créé pour nous, les enfants ukrainiens.
Pendant que deux petits Ukrainiens entament l'air de Titanic au piano et au violon, Katia, l'une des mamans, est ravie de voir à nouveau sa fille sourire.
Ici, tous les gens et les professeurs sont vraiment gentils avec nous. Et c'est important pour elle, psychologiquement, d'être avec d'autres enfants en sécurité.
2 heures chaque jour qui permettent aux enfants de s'évader et de retrouver un semblant de vie normale, même s'ils confient penser encore à leur père resté au front.
Le reportage d'Arthur Pereira à Senlis dans l'Oise. La guerre en Ukraine qui pénalise aussi l'économie française. Une croissance amputée cette année de 0,5 à 1,1 point de PIB selon la Banque de France.
6h passées de 2 minutes sur Europe 1. Et cette question à présent, est-ce que vous vous sentez prêt à retirer votre masque?
En tout cas, il n'est plus obligatoire dans les lieux publics, ni à l'école, ni même dans les entreprises. Fin du pass vaccinal aussi. Jour J donc pour retrouver le visage et qui sait, peut-être le sourire de vos collègues. Élise Dingen a rencontré les salariés de L'Oréal au siège du groupe à Paris.
C'est une joie, un soulagement, ça met du baume au cœur.
Bas les masques chez L'Oréal pour le plus grand plaisir des salariés comme Marine, à qui ça va clairement faciliter le travail.
On a appris à deviner les sourires derrière les masques avec les yeux qui se plissent, mais je trouve ça vraiment agréable parce qu'il y a beaucoup de langage informel dans nos réunions quand on communique ensemble.
Redécouvrir, voire complètement découvrir ses collègues, voilà ce qui attend Céline qui a rejoint son équipe il y a tout juste un an.
Il y a des gens que j'ai encore jamais vus sans masque, donc j'ai hâte de voir les vrais visages des gens physiquement.
La fin du protocole sanitaire, c'est aussi le retour de la convivialité, terminer les jauges dans le restaurant d'entreprise, le plexiglas au milieu des tables et l'interdiction d'organiser des événements. Mais c'est aussi l'heure de construire l'après-Covid, explique Benoît Serre, le DRH de L'Oréal France.
C'est un événement pour nous les DRH, puisque ça fait 2 ans qu'on vit sous un régime de protocole. Il a été allégé, il a été aggravé, mais il n'a jamais été suspendu. Donc on retrouve la maîtrise de nos organisations et c'est une bonne nouvelle.
L'entreprise lance par exemple la refonte complète de ses locaux pour favoriser l'alternance entre télétravail et présentiel.
Précision signée Élise Dangean. J'ajoute que le masque reste obligatoire dans les transports en commun, les hôpitaux et les EHPAD.
Les aînés, justement, ils peuvent obtenir leur 4e dose de vaccin à partir d'aujourd'hui pour les plus de 80 ans. Une protection supplémentaire face au rebond de l'épidémie, plus 24% de nouveaux cas quotidiens sur une semaine. À un mois du premier tour, l'idée est d'éviter la grogne sociale. Ce week-end, le Premier ministre a annoncé un nouveau coup de pouce pour les automobilistes. Dès le 1er avril et pour 4 mois, 15 centimes de réduction sur chaque litre de carburant pris en charge par l'État.
2,10€ le litre de gazole en moyenne, une flambée des prix qui inquiète le candidat Macron.
Il sera pour la première fois ce soir à la télévision, le chef de l'État sur TF1, aux côtés de 7 autres candidats. Pas de débat, mais 15 minutes d'interview chacun. Emmanuel Macron dans le viseur habituel d'Anne Hidalgo, en meeting samedi à Rennes. La candidate socialiste qui a désormais une autre cible à gauche, cette fois Alexis de la Fontaine.
Oui, devant l'impossible union de son camp, la maire de Paris a décidé de frapper fort sur son principal concurrent à gauche.
Des gens nous expliquent qu'il y aurait un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. Vous imaginez l'avenir de la France avec Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je suis la gauche républicaine et européenne.
Anne Hidalgo sait que sa chute à 1,5% dans les sondages est due au vote utile à gauche, qui favorise Jean-Luc Mélenchon, seul en capacité d'accéder au second tour. Donc, pour démonter cette idée de vote utile, Anne Hidalgo veut isoler le leader insoumis. Un proche confie, on a 2 angles, sa complaisance avec Poutine et son incapacité à gouverner. Discréditer Jean-Luc Mélenchon aux yeux des électeurs de gauche, c'est l'ultime chance de la maire de Paris pour remonter au-dessus des 5%, seuil de remboursement des frais de campagne. Un haut cadre du PS affirme, à moins de 5%, on n'est pas remboursé et on n'aura pas de député, donc on est mort.
Alexis de la Fontaine.
Allez, on termine ce journal avec un peu de paillettes dans nos vies. La cérémonie des BAFTA, l'équivalent britannique des Césars, c'était hier soir à Londres.
And the BAFTA goes to The Power of the Dog.
Voilà, avec le sacre du western de Jane Campion de Power of the Dog qui a décroché même 2 prix, meilleure réalisatrice et meilleur film, voilà, de bon augure avant les Oscars qui sont à la fin du mois.
Effectivement, merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal complet.
6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec du foot et l'OM qui se relance.
Oui, les Marseillais ont battu Brest hier soir, victoire nette et sans bavure, 4-1. Après 3 matchs sans victoire, les Olympiens renouent avec le succès au meilleur moment et conservent leur 2e place. Écoutez la satisfaction du défenseur William Saliba.
On avait pour but de se rattraper et aujourd'hui c'est une victoire satisfaisante. Une semaine positive aussi, on a gagné jeudi et aujourd'hui on gagne. On reste concentré sur la semaine prochaine qui va être très importante.
Un peu plus tôt dans la journée, Lyon a été balayé par Rennes, défaite 4-2 à domicile. Des Lyonnais qui ont probablement dit adieu à leur rêve de podium, même si leur coach, un Peter Bosz, y croit encore.
C'était un match important contre une équipe qui sont 5 points devant nous. C'était très important de gagner ce soir. C'est toujours possible, donc c'est pas mon mentalité de quitter. Non.
Peter Bosz au micro de Maxime Schuch. De l'exaspération, il y en avait aussi au Parc des Princes hier. Grève des encouragements, Messi et Neymar sifflés. Seulement 4 jours après l'élimination face au Real Madrid. Mais sur le terrain, Paris a fait le job. Victoire 3-0 contre Bordeaux qui reste dernier.
Un mot des Jeux Paralympiques qui se sont clos hier.
Oui, avec une belle 4e place au classement des médailles pour l'équipe de France. Comme en 2018, les Bleus repartent avec 12 breloques, dont 4 pour le seul Arthur Bauchet, encore titré hier en slalom.
On passe au rugby, Martin, avec une semaine décisive pour le 15 de France.
Oui, les Bleus sont à 80 minutes d'un grand chelem qui leur échappe depuis 12 ans. Pour cela, il faudra battre l'Angleterre samedi soir au Stade de France, un sacré défi pour le sélectionneur Fabien Galthié.
C'est l'Angleterre, finaliste de la Coupe du Monde,
une dégradation du rugby mondial depuis des années. Il va falloir se préparer avec notre méthode et avec les joueurs et leur ambition.
À noter qu'hier en top 14, Clermont a fait chuter Bordeaux-Bègles. Cinquième défaite d'affilée pour les Bordelais qui abandonnent leur place de leader. Et puis un mot de vélo pour finir, le Slovène Primoz Roglic remporte Paris-Nice. C'est le Britannique Simon Yates qui s'adjuge la dernière étape.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, cette question, jusqu'où peut aller Poutine? Réponse dans un instant avec le politologue Benjamin Haddad. A tout de suite sur Europe.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h10. Votre invité, Julien, est politologue, chercheur en relations internationales et directeur Europe du think tank Atlantic Council.
Bonjour Benjamin Haddad.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'une étape de plus a été franchie hier avec le bombardement par les forces russes d'une base militaire située à 20 km de la frontière polonaise?
Oui, c'est une façon pour la Russie de continuer à tracer des lignes rouges. Ici, on a frappé une base qui abritait encore des troupes américaines il y a quelques semaines et qui fait partie des endroits, on pense, à partir desquels transitent les armes qui sont fournies par l'Occident à la Russie. Il y a un risque d'escalade, on le voit, et c'est aussi pour ça que Joe Biden, par exemple, a rappelé que toute forme d'extension du conflit à l'OTAN serait vraiment vue là comme une ligne rouge absolue par les États-Unis qui rentreraient en guerre.
Cette escalade, par exemple, c'est ce que cherche Poutine délibérément?
Pas forcément, c'est-à-dire que ici, c'est une façon de tracer des lignes rouges aux Occidentaux et d'exprimer une forme de mécontentement par rapport aux livraisons d'armes. Mais Poutine sait aussi que les États-Unis ont dit clairement qu'ils ne rentreraient pas en conflit en Ukraine, mais qu'en revanche, si le conflit s'étendait à un territoire de l'OTAN, donc la Pologne, les États baltes ou la Roumanie, là, les États-Unis rentreraient en guerre pour défendre leur allié. C'est pas dans l'intérêt de Poutine, évidemment, de se retrouver dans une guerre face aux pays de l'OTAN.
Benjamin Haddad, nous entrons ce matin dans le 19e jour de conflit et Kiev tient toujours, ce qui à l'évidence n'était pas ce qu'avait prévu le Kremlin. Poutine aurait d'ailleurs limogé plusieurs hauts gradés de l'armée et fait arrêter des responsables du FSB. Est-ce qu'il va désormais mettre toutes ses forces sur la table ?
Oui, c'est ce qu'on voit. De toute façon, on voit une montée en violence contre les civils ukrainiens. On voit effectivement que Poutine donne l'impression d'avoir été mal informé sur la situation de l'armée russe. On voit des difficultés logistiques sur le terrain. On voit une sous-estimation de la résistance ukrainienne depuis le début, qui a mis les Russes en difficulté, avec des pertes d'ailleurs assez élevées. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la violence qui est accrue et qui va continuer à s'accroître dans les prochaines semaines, malheureusement.
Alors en tout cas, il y a une prise de conscience dernièrement, puisque d'après le New York Times ce matin, la Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires ainsi qu'une aide économique pour surmonter les sanctions. Est-ce que ça vous paraît crédible ?
Alors, ça me paraît crédible, effectivement, que la Russie ait demandé, puisque d'ailleurs, on l'entend de plusieurs sources. On a vu la Russie se rapprocher de la Chine dans les semaines qui ont précédé l'invasion. Il y a d'ailleurs une sorte de pacte qui avait été signé entre les deux pays. C'est la première fois qu'on voyait la Chine, d'ailleurs, s'aligner sur un certain nombre d'arguments de la Russie sur les élargissements de l'OTAN, par exemple. Il faudra quand même voir si la Chine décide d'aller jusqu'au soutien militaire à la Russie, parce que ça mettra la Chine aussi dans une situation très délicate vis-à-vis des États-Unis et des Européens. Et d'ailleurs, les Américains vont avoir un dialogue diplomatique avec la Chine. Le Conseil national de la sécurité, Jake Sullivan, l'a annoncé sur ce sujet. Mais clairement, on voit la Russie maintenant faire appel à de plus en plus de partenaires. Appel à des mercenaires syriens dans les derniers jours. L'armée biélorusse aussi, dans les derniers jours, s'est engagée sur le terrain. La Russie est en difficulté et essayer de faire appel à plus de partenaires pour venir la soutenir sur le terrain.
Mais quel aveu d'échec, tout de même, quand on se prétend être la deuxième armée du monde, de demander de l'aide à des Syriens, demander de l'aide à Pékin.
Oui, absolument, absolument. Et on voit que Vladimir Poutine a sous-estimé la résistance des Ukrainiens, a sous-estimé peut-être aussi la grogne de sa population. C'est aussi donc une façon de réduire les pertes russes vis-à-vis de la population russe ou de l'entourage de Vladimir Poutine. Il faut rester encore très prudent. Ça fait 3 semaines et on voit que le rapport de force reste quand même en faveur de la Russie. Mais c'est une guerre qui n'est pas en train de tourner comme l'espérait Vladimir Poutine.
Alors justement, Joe Biden, le président américain, laissé entendre ce week-end que face à ces difficultés, le Kremlin serait à deux doigts d'autoriser l'emploi d'armes chimiques en Ukraine. Est-ce qu'on en est vraiment là ?
Eh bien, écoutez, c'est ce qu'a fait l'allié de Vladimir Poutine, Bachar al-Assad, en Syrie il y a déjà quelques années. On s'inquiète parce qu'on entend les déclarations russes et on sait comment ce genre de choses marche. C'est-à-dire que les Russes ont déjà préempté le récit en accusant l'Ukraine potentiellement d'avoir recours à des armes chimiques. Alors, il n'y a absolument aucun élément pour le justifier, mais on sait que dans la propagande de la Russie, ça laisse parfois présager que c'est la Russie qui va elle-même utiliser des armes chimiques. C'est en tout cas ce qui fait peur à beaucoup d'observateurs.
Et en même temps, que se passerait-il si les Russes employaient de telles armes? Parce que vous avez mentionné le cas de Bachar el-Assad, on n'a rien fait à l'époque.
Vous avez raison. Les Américains ont déjà dit que ça ne constituerait pas une forme de ligne rouge. Alors c'est une déclaration qui inquiète beaucoup parce que ça donnerait presque une forme de d'accord tacite de blanc-seing. Mais effectivement, les Américains, une fois de plus, ne veulent pas être entraînés dans ce conflit. Le dirigeant polonais, lui, a dit que ça devrait être une ligne rouge pour l'OTAN, qui devrait à ce moment-là se poser des questions sur une augmentation de son intervention. Ça mettrait les Occidentaux dans une situation extrêmement délicate. Évidemment, on verra des images horribles. On est aujourd'hui dans une stratégie de terreur contre la population ukrainienne pour casser le moral de la résistance, et effectivement il faut s'inquiéter de l'utilisation de telles armes dans ce contexte.
Est-ce que on peut questionner la rationalité de Vladimir Poutine ?
On peut questionner, il est mal informé, il est effectivement isolé dans une bulle de paranoïa, il s'est beaucoup isolé avec Covid, donc il rumine probablement sur l'Ukraine. On l'a vu humilier certains de ses collaborateurs, donc clairement il refuse toute forme de contradiction. Mais en revanche, il n'est pas forcément irrationnel, il peut avoir fait un très mauvais calcul et il peut avoir surestimé ses chances de succès, sous-estimé la mobilisation internationale, sous-estimé la résistance de l'Ukraine. Au fond, ça fait 22 ans, Vladimir Poutine, qu'il fait des coups déjà assez agressifs. Un joueur de poker et qu'il s'en sort. L'annexion de la Crimée, l'attaque contre la Géorgie, l'agression contre la Tchétchénie, quelques semaines à peine après être devenu Premier ministre en 1999, des assassinats politiques, y compris à l'étranger. Donc il a peut-être tout simplement pensé qu'il s'en sortirait une fois de plus. Et là, effectivement, il est en difficulté.
Et il est à deux doigts de faire tapis, comme on dit dans le milieu du poker. Merci beaucoup, Benjamin Haddad, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur Europe du think tank Atlantic Council. Le titre de votre dernier livre, Le Paradis perdu, c'est chez Grasset. Bonne journée et à bientôt.
Merci.
Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1, la partition de Quincy Jones. À tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce lundi, Alban Le Prince.
Reprise des pourparlers entre Ukraine et Russie aujourd'hui en visioconférence, alors que la guerre s'étend désormais à tout le pays. Les frappes russes gagnent l'ouest, comme hier à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière polonaise. Au sud du pays, à Mariupol, le dernier décompte de la mairie fait état de plus de 2100 morts parmi les civils. La ville assiégée attend toujours l'arrivée d'un convoi humanitaire. Une nouvelle tentative est prévue aujourd'hui. Enfin, ou alors trop tôt. Et vous, qu'en pensez-vous fin aujourd'hui de l'obligation du port du masque en intérieur, sauf dans les établissements de santé et les transports? Ce lundi marque également la levée du pass vaccinal.
Votre partition, Omblin, pour conclure cette matinale. Il est l'un des plus grands créateurs de la musique américaine et il fête aujourd'hui ses 89 ans. Le producteur Quincy Jones.
Producteur, Julien, c'est seulement l'une de ses casquettes, grâce à laquelle il a érigé au rang de King of Pop Michael Jackson dès la fin des années 70. Quincy Jones est également un éminent compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et qui passe avec aisance du jazz au hip-hop.
À l'origine, ce jeune musicien originaire de Chicago est un trompettiste de haut vol.
Quincy Jones découvre l'instrument au tout début de l'adolescence et l'histoire est connue. Lorsqu'il déménage avec sa famille à Seattle, il fait la connaissance du pianiste Ray Charles devant la porte d'un club de jazz. Les deux prodiges partagent la même passion pour le bebop, ce jazz moderne au tempo rapide qui a pour ambition de s'affranchir du style big band, bien structuré, l'improvisation et la règle. En s'éloignant de la ligne mélodique du morceau, le bebop, c'est l'avènement des solistes, et pour Quincy Jones, être bebopper, c'est un mode de vie et un moyen de s'ouvrir l'esprit. Jamais il ne se cantonnera à un style et dédaignera un genre. Il va jusqu'à fusionner jazz et bossa nova.
Cette science de la musique, de toutes les musiques, permet à Quentin Jones de devenir au fil des décennies une machine à tube.
Il sait immédiatement identifier les bonnes mélodies, choisir les arrangements et les orchestrations, guider et orienter les interprètes et les compositeurs. Quincy Jones est dans le studio quand Frank Sinatra enregistre Fly Me to the Moon à la fin des années 70. Après avoir passé ses nuits en club pour s'imprégner des musiques à la mode, il offre à George Benson le plus grand succès de sa carrière, l'album Give Me the Night. Quant à Michael Jackson, rencontré sur le tournage du film musical The Wiz, que tout le monde a oublié, eh bien, il lui fait le plus beau des cadeaux, la liberté d'exprimer sa folie créative. Michael Jackson se détache de ses frères et avec Quincy Jones à la barre, il s'empare de la couronne du roi incontesté de la pop.
Tout au long des années 80, Quincy Jones impose définitivement son nom dans l'industrie musicale américaine.
Il est de tous les projets, réalise aussi son rêve hollywoodien avec La couleur pourpre de Steven Spielberg. Il ne se contente plus de la musique de la bande originale, il rejoint aussi la liste des producteurs. Il répond présent à l'appel du chanteur Harry Belafonte qui souhaite enregistrer une chanson solidaire pour venir en aide au peuple éthiopien qui meurt de faim. Quincy Jones arrive à convaincre 46 superstars à prêter leur voix pour USA for Africa.
Et il trouve le temps d'enregistrer ses propres albums studio.
Et oui, avec l'aide d'un nombre impressionnant de collaborateurs pour son disque The Dude, il reçoit entre autres le Grammy Award du meilleur producteur de l'année. Charles May et Patty Austin, Quincy Jones avec Aino Corrida, extrait de son album de 1981 de Dude. Aino Corrida qui est une reprise du guitariste et claviériste Chas Jenkel et le titre du morceau fait référence au titre japonais du film L'Empire des Sens de 1976. En version originale, le film s'appelle Aino Corrida, ce qui signifie Corrida de l'amour. Ce n'est donc pas de l'espagnol.
Bah voilà, c'est noté. Merci beaucoup, Omblin. Et ça, c'est du français. Vous restez avec nous. La matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.